un événement, un moment d'histoire. C'est ainsi que l'on parle volontiers de ce qu'on est en train de vivre, un peu partout, non sans une certaine facilité, parce que l'événement, qu'est-ce que c'est ? C'est un saisissement du temps, un fragment sur lequel on s'arrête, comme si l'histoire s'arrêtait, un éclat, que l'on raconte, que l'on partage, qu'on décide de garder en mémoire. Et bien sûr, on en a besoin de l'événement, parce qu'on articule toujours une histoire, quelle qu'elle soit, autour de repères, de dates, de moments saillants. Mais il ne faut jamais oublier qu'il est chargé, l'événement, de tout ce qui s'est passé avant, de ses multiples ressentis, de la vision du monde et du futur qu'il porte en lui. Un événement historique, pour le définir et pour qu'on puisse s'en souvenir, il faut du temps. Et dans un monde où l'information est à la fois une fabrique, une course folle, une foire d'empoigne, quand tout le monde cherche à faire événement, si bien que chaque jour, chaque heure, un événement chasse un autre, que devient l'histoire ? Comment savoir ce qui fait vraiment événement ? C'est ce qui surprend, c'est ce qui effraie, c'est ce qui émeut, c'est un rebondissement dans un récit qu'on écrit collectivement, mais c'est sans doute aussi un leurre, parce qu'il est tant chargé de temps qu'il faut du temps pour le déterminer, l'événement.
Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Les livres de mon invité d'aujourd'hui font événement et sont traversés de moments historiques. Le prix Goncourt pour Au revoir là-haut, qui ouvrait sa trilogie des enfants du désastre. Il poursuit son exploration du XXe siècle avec une nouvelle série de romans, une tétralogie nommée Les années glorieuses, dont le premier tome vient de paraître. Ça s'appelle Le Grand Monde. C'est une saga familiale, un formidable roman d'aventure, surtout qui nous promène de Beyrouth à Saïgon en passant par Paris. Et oui, dévoile l'envers du début des Trente Glorieuses avec un sens du rebondissement, à mon sens inégalé. Bonjour Pierre Lemaitre.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Avant toute chose, parce que on y pense forcément quand on raconte des histoires, après tout c'est votre métier, la petite histoire mais aussi l'histoire avec une grande hache comme disait l'autre. Qu'est-ce qui pour vous fait le moment historique ?
Alors ça dépend de quel côté je l'envisage, si je l'envisage comme citoyen ou si je l'envisage comme romancier. Je vous dirais de manière très égoïste qu'en tant que romancier, le bon événement c'est celui qui fait roman. C'est celui qui me donne une intrigue, celui qui me donne du grain à moudre. Mon métier, c'est de raconter des histoires, comme vous venez de le dire. Donc, pour moi, le bon événement, c'est celui qui fait le bon roman.
Et en tant que citoyen ?
En tant que citoyen, c'est celui qui m'interpelle sur l'état du monde.
Alors, par exemple, au moment où nous nous parlons, est-ce que vous avez l'impression de vivre un moment historique ?
Alors, à l'évidence, on a le sentiment tous de vivre un sentiment historique. Peut-être, ce sentiment est d'ailleurs décuplé par le degré d'incertitude. Rarement, le degré d'incertitude a été aussi élevé que aujourd'hui, et c'est peut-être ce qui décuple et en même temps trouble notre lecture de l'événement.
Au fond, Pierre Lemaitre, l'histoire, quelle matière est-ce que c'est pour le romancier que vous êtes ?
C'est une matière étrange parce que c'est un espèce de double miroir, c'est-à-dire celui qui à la fois réfléchit, faut se méfier des miroirs, c'est ce Cocteau qui disait ça, méfiez-vous des miroirs, ils réfléchissent. Alors lui, il réfléchit le passé et en même temps, il réfléchit d'une certaine manière l'avenir. En
oui.
fait, vraiment pour moi, l'événement, c'est un instant présent qui donne le focus à la fois sur le passé et sur le futur.
Vous savez, hier on parlait du mot guerre avec l'écrivain russe francophone Dimitri Bortnikov. Ce mot, quelles images, quels fantômes, quelles visions est-ce qu'il réveille en vous, Pierre Lemaitre, vous qui êtes un enfant de l'après-guerre ?
Alors, moi je suis un enfant de l'après-guerre, c'est-à-dire je fais partie de cette génération chanceuse qui n'a jamais connu la guerre. Je suis maintenant un homme d'âge, comme on disait autrefois, et je n'ai jamais connu la guerre. À 70 ans de paix sur notre territoire, on a fait des guerres à l'extérieur, bien sûr, mais sur le territoire que j'habitais. Donc ça me donne vraiment une position de surplomb assez embarrassante, parce qu'au fond, je parle de la guerre comme un privilégié qui n'en a pas connu.
Pour autant, dans quelle mesure fait-elle partie de votre imaginaire ? Dans quelle mesure est-ce qu'elle le nourrit ?
Alors, elle le nourrit pour avec deux, je dirais, il y a deux paramètres. Le premier, c'est l'expérience de la guerre. C'est-à-dire, j'ai commencé, moi, ma carrière de romancier, en tout cas, la deuxième partie de ma carrière, avec un livre sur l'après-Première Guerre mondiale, et j'avais été, dès 17 ans, bouleversé par les récits de guerre de ceux qu'on a appelés les écrivains combattants. Donc, l'expérience de la guerre a quelque chose d'époustouflant, de sidérant, d'asphyxiant, de vertigineux. Et puis après, je me suis intéressé plutôt au creux. C'est un petit peu, je dirais, une marque de fabrique, pas toujours volontaire, de mes romans, que d'aller regarder un petit peu dans les creux. Et notamment pour les guerres, d'aller voir dans les après-guerres ou dans les avant-guerres. Oui. Et en fait, de regarder comme ça l'événement un petit peu de biais. Je l'avais fait avec Au revoir là-haut sur la Première Guerre mondiale et je le fais ici avec la Seconde Guerre, d'essayer de regarder ce que c'est que l'effet de la guerre dans l'après-guerre.
Mais vous parlez aussi dans Le Grand Monde de guerre coloniale et plus précisément de guerre d'Indochine, une guerre dont la littérature et les livres d'histoire parlent assez peu, somme toute. Ça me frappe toujours, moi, dont le grand-père est mort en Indochine. Vous dites d'ailleurs que c'est une guerre oubliée.
C'est une guerre, alors, elle est oubliée pour plusieurs raisons. La première raison, que j'appellerais presque la raison allemande. Raison allemande parce que, pour les Allemands, par exemple, la Première Guerre mondiale a complètement disparu parce qu'elle est occultée par la Seconde Guerre mondiale. Ce qui est assez logique, une espèce d'effet comme ça, de trouble visuel, pourrait-on dire. C'est pareil pour nous, la guerre d'Algérie occupe les Trente Glorieuses et a fait oublier, fait obstacle, en quelque sorte, obstacle mémoriel à cette guerre qui est oubliée, qui est cette guerre d'Indochine qui l'avait précédée. Et j'ai envie de dire, elle est doublement oubliée, c'est que, j'ai envie de dire, déjà à son époque, c'était une guerre oubliée.
Oui, même si elle hante certaines familles, évidemment. Non. Alors, que connaissiez-vous de l'Indochine avant d'écrire ce livre, Pierre?
Alors, sans me vanter, rien. Sans me vanter, rien du tout.
Je connaissais
rien.
Bien.
J'y connaissais rien. Je ne suis jamais allé là-bas. Vous savez que je n'aime pas les voyages. Donc je me suis dit quand même, je vais quand même devoir y aller.
C'est
quand
assez
même.
Ironique hein, quand on écrit Le Grand Monde.
oui, c'est ça. Bon, peut-être un peu, oui. Donc je me suis dit, bon, puisque je n'y connais rien, je vais y aller par bonheur, si je puis dire. J'espère que tout le monde entendra les guillemets que j'y mets. Le Covid est arrivé, m'a empêché d'y aller. Et donc ça m'a empêché de voyager, ce dont j'étais ravi. Donc j'ai fait très modestement mon petit Jules Verne. Lui, il n'avait jamais foutu les pieds en Oural pour écrire Michel Strogoff, il n'y avait aucune raison que je ne puisse pas, moi aussi, m'amuser à essayer de décrire une Indochine qui est peut-être une Indochine un petit peu décalée, parce que comme je n'y suis jamais allé, je n'ai jamais mis les pieds.
Ça pose une question d'écriture fascinante, cela dit. Comment on fait pour rendre présent, pour rendre vivant, pour rendre crédible un pays et une époque qu'on n'a pas connue? Par quoi ça passe?
Alors, ça passe par de la technique, Augustin, ça passe par de la technique. Moi, je crois beaucoup à ça. C'est-à-dire, au fond, je me suis dit, qu'est-ce qui fait que le lecteur va se sentir en Indochine alors que moi, j'y suis jamais allé? Quels sont les indices textuels? Quels sont les détails qui vont faire qu'à un moment, il va rentrer dedans et que d'une manière économique, comme vous l'aurez plongé dedans, chaque fois qu'on va y revenir, il y sera déjà. Il y sera resté, d'une certaine façon. Donc, c'est vraiment une question de technique. Alors, ça demande beaucoup de paramètres. C'est presque du savoir-faire. C'est presque de l'habileté. Mais en même temps, le roman, c'est beaucoup de savoir-faire, beaucoup d'habileté. Sinon, vous pouvez pas raconter bien une histoire. Pour bien raconter une histoire, il faut beaucoup de cœur et il faut beaucoup de technique.
Au fond, Pierre Lemaitre, pourquoi l'Indochine? Quel théâtre est-ce que c'est pour le romancier que vous êtes
alors,
à ce moment-là?
Alors, c'était pas tellement un théâtre pour le romancier, parce que cette guerre est une guerre coloniale relativement classique, si je puis dire. C'était intéressant pour la thématique du roman, parce que c'est la grande guerre du capitalisme.
C'est ça.
Les Trente Glorieuses, que je vais feuilleter là au cours de cette tétralogie, qui commence avec Le Grand Monde, c'est la période d'acmé du capitalisme français. Hein. Et donc, cette guerre, qui est une guerre purement capitaliste, était au fond, là encore, un miroir, une sorte d'éclairage sur la période que je voulais feuilleter.
Mais il s'y joue d'autres formes de domination dans cette histoire, d'une violence extrême liée à la colonisation, la violence de l'entreprise coloniale. Diriez-vous que c'est aussi quelque chose qu'on a tendance à refouler?
Alors, je ne sais pas si on a tendance à la refouler. En tout cas, on a certainement tendance à l'interpréter, à la réinterpréter en permanence. Vous voyez, je suis un peu frappé quand même. Avec Éric Vuillard, nous tous les deux, nous publions sans l'avoir voulu, un livre autour de la guerre d'Indochine, et le propos que nous y tenons est à la fois extrêmement commun, mais en même temps, la manière de le raconter et de l'aborder est totalement différente. Et moi, je trouve que c'est une des magies et une des grandeurs de la littérature que de nous donner deux éclairages sur le même événement, en plus deux éclairages qui sont, j'ai envie de dire, idéologiquement à peu près les mêmes, en tout cas qui ont beaucoup de... Enfin, je parle pour moi, je ne veux pas parler pour Éric Vuillard. Enfin, je me sens en communauté d'analyse avec sa façon de voir les choses. Et je trouve que c'est une des grandeurs de la littérature de nous proposer, au fond, ce que Dos Passos appelait l'œil de la caméra.
Et de défaire des silences aussi, tout simplement.
Alors, écoutez, pour défaire les silences, il faudrait peut-être avoir, ce que je n'ai pas, une vision pédagogique. Moi, je raconte des histoires, mais je n'ai pas très envie de donner des leçons, de proposer des interprétations. Évidemment, je donne mon avis, et tout le monde sait, je crois que les auditeurs qui nous écoutent et ceux qui m'ont lu parmi ceux-là savent que je n'avance pas masqué, et que n'importe qui, lisant mes livres, sait à peu près à qui il a affaire. Ça me paraît être l'une des honnêtetés minimum qu'on a vis-à-vis de son lectorat. Mais en même temps, je m'interdis de dire au lecteur ce qu'il a à penser de mon histoire. Il pense ce qu'il veut.
En tout cas, il pense, il réfléchit, il se pose des questions. Parce qu'un livre est indissociable du contexte de sa publication également. Et quand vous voyez, par exemple, vous, Pierre Lemaitre, la méfiance que suscitent celles et ceux qui s'emparent de ces questions dites décoloniales, qu'est-ce que vous vous dites, vous qui écrivez précisément là-dessus?
Écoutez, je ne me dis pas grand-chose parce que, comment vous dire, ce débat me semble absolument pas littéraire. C'est un débat idéologique, c'est un débat peut-être politique, mais en fait, moi, en tant que romancier, ce qui m'intéresse, c'est de quelle manière la littérature va me permettre d'éclairer le monde. Alors, d'éclairer modestement, ma lumière n'est pas phosphorescente, hein, je suis prêt à vous l'accorder. Enfin, c'est quand même une petite LED allumée quelque part, bon, elle éclaire un petit bout d'histoire. C'est très modeste, mais les débats sur la décolonisation sont des débats hautement idéologiques, chacun a son idée sur la question, mais mon opinion serait celle d'un citoyen, c'est-à-dire qu'elle n'a pas plus d'intérêt que celle de n'importe quel de nos auditeurs ou nos auditrices.
Le fait même qu'on se pose des questions, c'est déjà une réponse. Avec Au revoir là-haut, vous aviez initié ce qui ressemble quand même, Pierre Lemaitre, à un grand portrait du XXe siècle, qui se poursuit aujourd'hui. Où s'arrête-t-il, ce XXe siècle, pour vous ?
Alors, historiquement, le XXe siècle est un siècle court. Hein. Les historiens conviennent qu'il commence à la guerre de 14 et qu'il se termine en 89 à la chute du mur de Berlin, à la fin de la guerre froide. C'est un siècle qui dure 70 ans. Voilà, c'est un échec aux mathématiques.
Hein, vous avez gardé ces balises, vous ?
Oui, j'ai gardé ces balises parce que j'avais commencé avec la Première Guerre mondiale et je me suis rendu compte, au fond, que j'avais envie de feuilleter ce siècle. Peut-être pas de le raconter, ce serait une ambition que je n'ai pas, mais de feuilleter et de feuilletonner ce siècle. Et donc, je vais l'arrêter. Je vais toujours enjamber les grands événements. J'avais enjambé la Première Guerre, j'ai enjambé la Deuxième, je vais enjamber la guerre d'Algérie, je vais enjamber mai 68, et je travaille sur les interstices. Et je raconte au fond, je feuillette ce XXe siècle à partir de ces interstices. C'est ce qui m'amuse. Et encore une fois, je reparle de Dos Passos, c'est l'œil de la caméra. Ce qui m'intéresse, c'est que la littérature est avant tout une question de point de vue. Ça n'est rien d'autre qu'une question de point de vue. Et au fond, ce qui m'intéresse, c'est de placer mon œil de la caméra sur les interstices de ce siècle pour tenter de raconter ma propre histoire. Ce siècle à 70 ans, c'est exactement mon âge.
Se peut-il, Pierre Lemaitre, qu'un jour vous écriviez sur le nôtre de siècle, le 21e siècle ?
Alors, c'est pas impossible si j'ai la santé, si je le peux. Oui, je m'approche de la période contemporaine. D'ailleurs, c'est assez curieux, Augustin, parce que plus je me rapproche de la période que j'ai connue, et plus je suis troublé parce que ce que je lis dans les livres d'histoire ne correspond pas toujours à ce que j'ai vécu. Alors donc, du coup, je deviens un petit peu schizophrène, c'est assez amusant. Non, je veux dire, c'est un plaisir schizophrénique, hein, donc c'est pas un handicap. Venir sur la période actuelle, j'ai envie de dire que c'est le mouvement naturel. Je suis parti des années 20, je suis maintenant aux années 50. Il est assez logique de s'approcher de la période contemporaine, je crois, oui.
Celle qui fonde absolument tout sur des impressions dans cette émission, vous la connaissez, c'est la culture. Pierre et son actualité, somme toute, assez intuitive. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mardi 1er mars ?
As Ukrainian writers and artists seek safety in bomb shelters, we stand with them, writer to writer and artist to artist.
C'est une lettre ouverte publiée par l'association Pen International. Plus de 1000 écrivains du monde entier expriment leur solidarité avec le peuple ukrainien, se disent consternés par la violence déchaînée par les forces russes et appellent d'urgence à la fin de l'effusion de sang parmi les signataires, les Américains Paul Auster et Joyce Carol Oates, la Canadienne Margaret Atwood, ou les prix Nobel turcs et biélorusses Orhan Pamuk et Svetlana Alexievitch.
Ça, c'est une petite victoire, mais le combat n'est pas fini du tout. Et pour vous montrer en masse, vraiment à 18h,
une opération de police a été menée tôt ce matin pour évacuer les locaux du cinéma associatif La Clé dans le 5e arrondissement de Paris. Depuis octobre 2019, artistes et militants s'opposaient à son rachat par le groupe SOS et défendaient un cinéma d'art et d'essai libre et indépendant. En dernier recours, ils appellent leur soutien à se mobiliser au niveau du métro Sancier d'Aubenton. C'est maintenant ou jamais. Save Your Tears, le tube signé The Weeknd, est officiellement la chanson la plus écoutée dans le monde en 2021, selon le palmarès établi par l'IFPI, la Fédération Internationale de l'Industrie Phonographique. Doublé gagnant, puisque l'année dernière, la superstar canadienne trônait déjà au sommet de ce classement, grâce à un autre tube, le très entraînant Blinding Lights.
C'est une porte pour parler d'espoir, ouais, pour en transmettre un peu.
Et enfin, déjà dans la légende, l'écrivaine Virginie Despentes et la cinéaste Axelle Le Dauphin ont annoncé la création de la Légende Édition, une maison qui vise à promouvoir la représentation et la visibilité de la culture queer et féministe. Dès l'automne, elles publieront 9 titres par an et commenceront par un ouvrage collectif titré Le Pulp Golden Years, consacré au mythique club parisien et aux années d'effervescence festive et créative dont il était l'épicentre. On a hâte. C'est le romancier Pierre Lemaître qui est mon invité ce matin dans Boomerang pour parler de ce grand monde, premier volume, on le disait, de ce que vous annoncez comme une tétralogie et qui se présente sous la forme d'une saga familiale. Et c'est intéressant parce que vous dites que pendant longtemps, vous pensiez que vous n'aviez pas la maturité pour écrire ce type de livre. Et je me suis demandé qu'est-ce que ça veut dire avoir de la maturité pour un écrivain, Pierre.
Alors, je pense qu'il y a deux choses. La maturité, c'est la capacité à s'affronter un sujet. Je crois que c'est à ça qu'elle se mesure. Je parle évidemment pas des causes et uniquement des conséquences. C'est-à-dire qu'il y a des sujets qui vous impressionnent. Et avoir de la maturité, c'est ne plus être impressionné par les sujets. Éventuellement, de comprendre que ces sujets ne sont pas pour vous. Éventuellement, que vous ne pourrez pas les traiter parce qu'ils ne font pas partie de votre univers romanesque. Mais là, à mon avis, la maturité, c'est la capacité à se dire qu'un événement qui vous plaît est un événement que vous pouvez, dans lequel vous pouvez vous lancer et sur lequel vous aurez quelque chose à dire. Et puis, il y a un deuxième paramètre, c'est le savoir-faire.
Mais alors, justement, quand est-ce que vous avez eu le sentiment d'arriver à maturité, si on parle de savoir-faire ?
À la fin de Miroir de nos peines. Miroir de nos peines était le troisième volume d'une trilogie que j'ai consacrée à l'entre-deux-guerres. Et à la fin de ce roman, j'avais l'impression... Oh, écoutez, encore une fois, je parlais de technique. J'espère que vous ne m'en voudrez pas.
Au contraire. Hein,
mais j'avais l'impression que mes outils étaient forgés, que je savais raconter une histoire. Alors, je sais le faire autant que je puisse le faire à ma manière à moi. Bon, voilà, c'est ma musique à moi. C'est pas bon, c'est la mienne.
Parce que l'histoire familiale, quel défi est-ce que ça représente ?
C'est le fait que vous avez une ribambelle de personnages qui sont chacun dans leur couloir de nage. Vous devez à la fois avoir des personnages qui ont chacun leur destinée et qui, au plan individuel, va permettre au lecteur de s'intéresser à eux. Et en même temps, vous avez besoin de raconter l'histoire d'un groupe, c'est-à-dire donc le défi, c'est à la fois d'être collectif et individuel, de suivre vos couloirs de nage pour être assez intéressant pour chacun d'entre eux, mais de ménager en permanence les croisements avec toutes les significations qui sont dedans. Donc c'est quand même c'est une question de gestion mentale qui est un peu compliquée.
Ah, c'est passionnant. Là, vous choisissez, Pierre Lemaître, de raconter les aventures des quatre membres d'une fratrie issue d'un milieu bourgeois et commerçant dans le Liban des années 40. Pourquoi ce milieu en particulier ? Je me suis demandé pourquoi cette classe ?
Alors, cette classe parce que, au fond, les Trente Glorieuses vont raconter l'histoire de la montée de la bourgeoisie dans l'acmé du capitalisme du XXe siècle. Et au fond, qu'est-ce qui va être la classe marquante de cette période-là ? C'est la bourgeoisie. Donc, prendre cette famille bourgeoise était une question de cohérence historique.
À partir de l'histoire de votre propre famille, de votre histoire, quel genre de saga pourriez-vous écrire ?
Oh, une saga certainement très différente, parce que moi, je viens des classes plus laborieuses de la société française. Donc, si j'avais voulu raconter mon histoire, je pense que je n'aurais pas choisi la famille Pelletier.
Je vous en parle parce que vous parliez de vos 70 ans tout à l'heure et c'est intéressant au regard de votre écriture. L'époque que vous décrivez, en l'occurrence, elle précède de quelques années seulement l'année de votre naissance, au début des années 50. Dans quelle France est-ce que vous êtes né ?
Alors, je suis né dans une France, en fait, je n'ai pas de souvenirs des années 50, bien évidemment, donc mes premiers souvenirs sont ceux des années 60, au moment où on était effectivement dans les Trente Glorieuses, où tout allait bien, tout allait vite, et où on avait beaucoup plus de travail que de salariés, c'était le plein emploi.
Oui, mais quand on plante la caméra, comme vous le faites, est-ce que c'est si rose ?
Alors, pour moi, ça n'était pas rose, mais pour des raisons plus psychologiques que sociales, parce que je n'étais pas un enfant extraordinairement heureux, donc en fait, vous voyez le monde à travers votre psyché. Donc pour moi, les Trente Glorieuses sont des années qui sont un petit peu tristes, mais pour des raisons plus personnelles que collectives, et je ne pense pas que mon regard recoupe en quelque sorte la sociologie de l'époque.
En tout cas, et c'est intéressant, ce qui reste de cette époque, c'est quand même celle d'un miracle économique qui permet de réduire les inégalités sociales. Direz-vous que c'est d'abord en ça que ces Trente Glorieuses semblent aujourd'hui si lointaines ?
Ah oui, alors c'est en ça, vous avez absolument raison, c'est-à-dire que dans ces années là, va commencer à naître le capitalisme qui va se réinventer sous la forme du néolibéralisme un petit peu plus tard, enfin dans ces années-là, ça, c'est bien antérieur, mais c'est dans ces années-là que l'acmé va intervenir, et c'est vrai que c'est dans ces années-là que se situent deux problèmes, à mon avis, importants, c'est la pollution de la planète, c'est dans ces années-là que la pollution va commencer à être vraiment un phénomène massif, et donc, d'une certaine manière, c'est ces années-là qui fabriquent le temps dans lequel nous sommes. Et puis, la deuxième chose, c'est que le creusement des le ravin qui sépare les plus riches des plus pauvres, oui. C'est à la fin de ces années-là que ce ravin va s'ouvrir et ne va pas cesser de s'écarter pour écarter les uns des autres les plus riches et les plus pauvres.
Vous savez, je me souviens, il y a 4 ans, je vous avais reçu à ce micro, Pierre Lemaître. C'était au tout début de l'année et vous aviez écrit un texte dans lequel vous souhaitiez une bonne année aux très chers riches. Dans quelle mesure ce texte, vous pourriez le réécrire aujourd'hui?
Écoutez, 4 ans plus tard, je serais très triste, Augustin, de reprendre ce papier parce qu'il faudrait que je l'actualise, mais pas dans le bon sens. Il faudrait que je reprenne ces chiffres-là qui sont devenus bien pires. Comprenez bien qu'entre 2010 et 2020, c'est-à-dire de la décennie qui a précédé, le patrimoine des milliardaires français a augmenté de 439%. 439%, c'est-à-dire que la France est le deuxième pays, après la Chine, dans lequel l'essor des milliardaires a été le plus élevé. Vous voyez, on est quasiment les champions du monde après les Chinois. Alors que nous avons quand même dans ce pays 10 millions de pauvres. 10 millions de pauvres. Donc, si vous me demandiez de refaire ce papier, j'aurais vraiment un coup au moral, parce que je devrais changer les chiffres et il n'irait pas dans le bon sens.
Pourquoi ça ne fait pas l'actualité? Pourquoi on n'en parle pas dans cette campagne présidentielle?
Alors d'abord, il y en a qui en parlent. Hein, quand vous dites qu'on n'en parle pas, vous avez raison de dire que ça n'est pas au premier plan des préoccupations. Mais enfin, malgré tout, il y a un certain nombre de candidats qui se soucient du fait que l'une des grandes skise de cette période, c'est la rupture qui existe dans la répartition des richesses.
On est à quelques semaines quand même d'un rendez-vous, d'une élection importante en tant que citoyen. Quel regard est-ce que vous portez sur la teneur des débats qui précèdent, ce qui est quand même censé être un grand moment de la vie démocratique, Pierre Lemaître?
Alors, je suis un citoyen frustré. Parce que il me semble que, si vous voulez, l'intérêt du débat, ce serait, dans ce moment-là, d'aborder les questions fondamentales qui sont la répartition des richesses. Et le rapport du GIEC date d'hier, il est absolument catastrophiste, de s'affronter à une nouvelle manière de vivre. Et il va falloir que nous changions notre manière de vivre pour affronter les temps que nous avons fabriqués dans les Trente Glorieuses. C'est ce que raconte la saga familiale que je publie. Donc moi, les deux grands débats, répartition des richesses et s'affronter au réchauffement climatique et au temps nouveau, devraient être pour moi les anciennes en permanence, devraient être le focus permanent des hommes et des femmes politiques. Et j'ai l'impression quand même qu'on se bagarre sur des questions de détail. Pas tout le monde, encore une fois. Il y a un certain nombre de candidats qui ont mis ça à l'avant-plan. Et je considère, moi, que le débat fondamental doit être de ce côté-là. Enfin, encore une fois, on peut être en désaccord avec ça.
Vous savez ce que je fais, moi, quand je suis frustré?
Non.
Ben, je vais vous le dire. Je prends de la hauteur. On va prendre de la hauteur ensemble. Décoller un peu. Plonger dans les nuages. La tête la première avec Jacques Higelin. Tête en l'air sur l'album Champagne pour tout le monde. En 79, vous êtes sur France Inter avec Pierre Lemaître. Vous écoutez Boomerang, évidemment.
Augustin Trapenard.
Pas du tout tête en l'air, hein. Moi je vous le dis, à la tête sur les épaules, avec son regard longue vue, ses mains de géant, son air de capitaine, on croirait aux commandes d'un vaisseau larguant les amarres vers le nouveau monde, le cheveu embrun, le sourire sextant, la dent pirate, avec son petit costume gris et son t-shirt noir, l'écrivain Pierre Lemaître.
Oh là là, un t-shirt noir.
Pascaline
m'avait dit, chez Augustin, il faut absolument porter une chemise. Alors là, vous avez vendu la mèche.
C'est avec un jour, Guillaume Canet avec une culotte de cheval, je me frottais les mains. Il allait faire de l'équitation après, j'étais trop content de pouvoir le décrire. Et Johnny Hallyday m'a demandé de décrire son slip. L'écrivain Pierre Lemaître, invité de Boomerang pour Le Grand Monde, un livre dans lequel se trouve un personnage né à Beyrouth qui rêve de monter à Paris pour devenir journaliste. Et ce livre, c'est aussi quand même, j'ai l'impression, une réflexion sur l'essor de la presse et sur la fabrique de l'information qui est, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, quel pouvoir de la presse à ce moment-là, de la presse papier, Pierre?
Alors, c'est un pouvoir naissant, c'est-à-dire que ce qui m'a vraiment intéressé dans le journal du soir qui est décrit dans Le Grand Monde, c'est son modèle France Soir, oui. Qui est alors un journal qui est très intéressant parce que sa courbe épouse celle des Trente Glorieuses. Il naît dans la difficulté de l'après-guerre, il va trouver son summum de réussite au milieu des Trente Glorieuses et va s'effondrer sur la crise pétrolière de 73-75, au moment globalement où le modèle Libé va remplacer le modèle France Soir. Donc en fait, cette espèce de courbe de Gauss épouse celle de la société, donc je trouvais que c'était un espèce de personnage collectif d'abord formidable parce que c'est une rédaction, c'est un patron de presse qui s'appelle Adrien Denisov, qui est un type qui vient d'Amérique avec des idées nouvelles et qui me permet de montrer quelque chose qui est très intéressant au début des Trente Glorieuses, c'est la naissance de cette première page de François qui est une véritable révolution. Sur la même page, vous avez la vitrine, en une seule page, la vitrine de tout ce qui est à l'intérieur, en fait une espèce de teaser. C'est une idée absolument géniale. Vous avez en même temps Charles de Gaulle, Martine Carole ou Brigitte Bardot, en alternance, un jour chacune. Et puis le fait divers du jour, quasiment l'horoscope. En fait, on a l'impression que tous les lecteurs trouvent ici la pastille qui leur convient. Ils n'ont plus qu'à acheter le journal.
Mais il y a aussi toute une réflexion sur la presse comme contre-pouvoir, Pierre Lemaître.
Oui, alors justement, ça, c'est ce qui sera une des difficultés d'ailleurs de François, le personnage, parce que il va s'affronter à la hiérarchie de la presse. Et notamment dans le livre suivant, le roman suivant qui se passe en 1952, où là, il va s'affronter au régime gaullien, qui est un régime de censure de la presse. Ouais. Alors j'espère que ce sera intéressant.
Et quand vous voyez la méfiance que suscitent aujourd'hui les médias traditionnels, qu'on soupçonne toujours d'être partisans ou désinformés, vous dites quoi ?
Je me dis que les Trente Glorieuses, en tout cas la période que j'ai décrite dans Le Grand Monde, était peut-être l'une des dernières périodes où les journalistes ne se contentaient pas de se lire entre eux. C'est-à-dire, en fait, on a quand même l'impression que beaucoup de chroniqueurs, avant tout, au lieu d'ouvrir la fenêtre pour regarder le monde, lisent leurs confrères. Et vous voyez, et apprennent le monde à travers les papiers de leurs confrères ou les éditoriaux de leurs consoeurs. Donc moi, je trouve quand même que c'est une curieuse façon de faire son travail d'information. Et j'ai l'impression que ce France Soir, en tout cas du début des années 50-60, tel que je le décris dans le Grand Monde, est un moment où le journaliste va sur le terrain, se confronte au terrain et va chercher l'information au lieu de se contenter de la recueillir et de l'interpréter.
Ah, il y a ce moment assez extraordinaire dans le livre hein, où ce personnage dont je parlais à l'instant, quand il se présente à la rédaction d'un journal parisien, on lui dit que s'il écrit bien, il ferait mieux d'écrire des romans parce que ici on fait pas des phrases, on raconte des histoires.
Ouais. Alors je me suis un petit peu amusé parce que vous comprenez bien le paradoxe. Mon idée en tant que romancier, c'est qu'on ne peut pas bien raconter des histoires si on n'écrit pas trop mal. Bon, là, on a un peu l'impression de dire l'inverse, on va dire, si vous écrivez bien, allez faire des romans, nous on raconte des histoires, mais le roman aussi raconte des histoires, donc vous voyez, le paradoxe était plutôt amusant. Ce qui m'intéressait dans ce petit dialogue entre Denisov et François Pelletier, c'était que, au fond, Lazareff avait sa conception de l'information, il disait, ce qui va intéresser le lecteur, c'est lui-même. Au fond, c'est la façon dont il va lui-même se projeter sur l'histoire que nous racontons, c'est ça qui va l'intéresser. Donc racontez-lui une histoire comme s'il était lui-même au cœur de cette histoire.
Mais ça, c'est une méthode que vous appliquez vous également,
mais
puisque oui. Vous nous l'avez décrite
mais
tout
voilà,
à l'heure.
C'est tout à fait la méthode romanesque, c'est-à-dire que j'essaie de faire que tous mes personnages, il y a quatre enfants qu'on va suivre au début de ces Trente Glorieuses, qu'on va suivre donc pendant trois ou quatre livres, il y a trois ou quatre volets. Ces personnages ont tous leur histoire individuelle et elle est inscrite dans le temps de la narration.
Procurer de l'émerveillement, c'est ce que vous faites, à mon sens, dans ce livre. Dans un monde comme le nôtre, c'est pas rien, quand même.
Alors, écoutez, on a un monde, on le voit bien aujourd'hui avec la crise russe-ukrainienne. On vit dans un temps difficile. Je n'aime pas la littérature d'évasion et je n'aime pas les livres qui font du bien. Je pense que la littérature, c'est pas un Lexomil et que ceux qui considèrent que le roman doit être un anxiolytique, à mon avis, se trompent de discipline. Je pense que, en revanche, le roman peut être âpre, peut être interpellant, peut avoir des violences, mais qu'il doit en même temps apporter du plaisir et de la jubilation. Et ce que j'essaye de faire, c'est de mixer justement quelque chose qui est simplement ce que je suis. En même temps, je suis assez tragique et assez jubilatoire. Et j'essaye de faire des livres qui ressemblent à ce que je suis.
À quel moment est-ce que vous avez su que vous étiez fait pour écrire, Pierre ?
Très tard, mais vous savez, je suis un homme tardif. J'étais un homme tardif, un papa tardif, un mari tardif et donc un romancier tardif. Donc à quel moment, j'ai envie de vous dire, hier, avant-hier.
Écrire, ça va pas forcément de soi. Ce matin, vous avez choisi de consacrer votre carte blanche, et je vous en remercie, à quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, puisque je me souviens d'une tribune que vous aviez publiée sur ce sujet, aux enfants dyspraxiques. La dyspraxie qui constitue, je le rappelle, un dysfonctionnement cérébral et qui a une incidence sur l'apprentissage de l'écriture, notamment.
Alors, petite expérience, vous allez voir, Augustin, c'est très très amusant. Enfilez un gant de boxe et prenez un stylo, nous allons faire une dictée à vitesse normale. Alors vous allez vous appliquer, dépenser 10 fois plus d'énergie que les autres, pour un résultat extrêmement médiocre. Alors je vais passer dans votre dos et vous dire « Mais t'es en retard !» Puis je t'en prie, applique-toi un peu, ta dictée est un torchon, fais des efforts. Eh bien, chers auditeurs, vous venez de vivre quelques minutes de la merveilleuse vie d'un enfant dyspraxique. Il souffre d'un trouble de la coordination, c'est-à-dire son cerveau n'automatise pas les gestes. Chaque fois qu'il écrit une lettre, il doit se souvenir de sa forme et la réinventer. Même chose pour nouer ses lacets, couper sa viande, boutonner sa chemise. Il a un QI normal, il s'exprime souvent très bien. Mais il est plus lent que les autres et il n'arrête pas de se faire engueuler. Allez, dépêche-toi, t'es toujours à traîner derrière les autres, tu lambines. On le trouve négligent, dilettante, pas travailleur. Personne n'imagine qu'en fait, il est exténué à 11h du matin parce que ses réserves cognitives sont épuisées. Pour tout le monde, ce sont des enfants à problème et ils sont 5% de la population. Leur principal handicap, Augustin, n'est pas la dyspraxie. Certains deviennent médecins, chercheurs, artistes. Non, non. Leur handicap, c'est l'école. Parce qu'à l'école, il faut apprendre comme tout le monde et restituer le savoir dans les normes. Parfois, ces enfants ne savent pas écrire chien, mais ils savent les plaies. Mais ça compte pas, hein. Il faut savoir l'écrire, sinon c'est zéro. Ils ne savent pas dessiner un triangle, mais sont capables de très bonnes démonstrations à l'oral. Mais ça compte pas, hein. Si vous pouvez pas les écrire, ça compte pas. Au mieux, ce que va faire l'école, c'est de les aider à s'adapter. La grande majorité des enseignants le déplorent. Mais chez nous, ça n'est pas le système qui s'adapte aux enfants. Ce sont les enfants qui doivent s'adapter au système. On adresse aux enfants dyspraxiques le même impératif néolibéral qu'à la société tout entière. Le monde ne changera pas, c'est nous qui devons changer. Et si on faisait l'inverse ? Réponse partielle le 24 avril.
Je voudrais vous remercier, Pierre Lemaître, pour ce texte, comme un appel en fait. Et merci aussi d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que Le Grand Monde, premier volume de votre tétralogie Les Années Glorieuses, vient de paraître chez Calman Lévy. C'est vraiment un grand livre à la gloire du roman. Également, on l'a compris, et je suis si heureux que tant de lectrices et de lecteurs le découvrent et le partagent en ce moment. Surtout en ce moment,